Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Seigneur Jésus, je veux te remercier pour ce temps qu'on a ce matin, Seigneur, pour se rappeler du jour le plus important de l'univers dans le temps, Seigneur Dieu, cette visite venue d'en haut. Et Seigneur, à chaque année, Seigneur Dieu, on veut se rappeler qu'il y a un peu plus de 2000 ans, Seigneur Dieu, tu as visité ce monde, toi le Créateur, toi qui aimes tellement l'homme, Seigneur. Que tu es venu et tu t'es fait homme. Aide-nous à comprendre un peu le but de ta venue, Seigneur Dieu. Aide-nous aussi à être prêts, Seigneur, pour ta deuxième venue, parce que c'est une belle chose que d'être attendu. Et Seigneur, tu trouves ici des gens qui t'attendent avec patience, Seigneur Dieu. Mais on t'attend, Seigneur Dieu. Puis on a hâte que tu reviennes. Amen. Alors, c'est bon d'être attendu, et aujourd'hui, c'est un peu autour de ça que je vais parler. On va avoir des temps de communion avec nos familles. On a hâte de voir nos parents, nos frères et sœurs. Souvent, qu'on se perd de vue durant l'année. C'est bon d'être invité, c'est bon d'être attendu aussi. Et quand vous êtes reçu par quelqu'un qui attendait votre visite, vous vous sentez comme chez vous. Moi, j'ai un patois, c'est bienvenu chez vous. Tim Hortons me l'ont volé il y a quelques années, je ne les ai pas actionnés pour ça. Mais à chaque fois que je vois quelqu'un, je dis « Bienvenue chez vous ». C'est une belle chose que d'être bienvenu chez soi. Moi, je suis un étudiant, présentement en technique informatique, puis il fallait créer une compagnie fictive, puis c'est un cours d'administration, puis il fallait comme du début à la fin faire le concept, le logo, l'étude de marché, puis nous autres, ce qu'on a fait comme compagnie, ça s'appelait Uberluxe. Puis, dans le fond, on pensait, nous autres, que les gens seraient prêts à payer 10 % de plus au centre-ville de Montréal pour arriver à une place où ton repas est déjà préparé, un petit peu comme, tu sais, tu n'as pas beaucoup de temps, là, mais là, on t'a préparé ton repas, c'est déjà payé comme Uber, là, tu sais. Je ne sais pas si vous avez essayé les taxis Uber, y en a-tu qui ont essayé ça? C'est vraiment cool, hein? Ah, toi, tu l'as essayé avec moi à Montréal. Tu vois le taxi s'en venir, tu sais, puis c'est comme, c'est très personnalisé comme service, tu sais. Puis on s'est dit qu'on ferait une compagnie là, que les gens ils seraient prêts à payer comme 10 % de plus pour avoir un repas puis avoir la joie d'être attendu. Et c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où tout est individuel et tout va très vite aussi. Les familles sont éclatées puis on se perd de vue un petit peu dans ça. Et puis un désir et un besoin qui est là, même si on est tous là avec nos cellulaires, on est tous un petit peu tous indépendants, on a tous besoin de connecter. On a tous besoin de communauté. Et donc, le repas devient aussi un prétexte pour se voir. Je ne sais pas si vous avez une autre qui connaît ça, cette image-là. Ça s'appelle « Life in Peace », c'est la vie en petites pièces. C'est une émission qui dure 20 minutes sur Netflix. Puis Stéphanie et moi, c'est une de nos émissions fétiches. Puis il y a quelque chose dans ces quatre petites histoires d'à peu près 7 minutes où tu as des faits cocasses de la vie quotidienne. Mais il y a quelque chose qui est commun dans cette émission-là. C'est une famille juive. Il y a une chose qui est commune, c'est qu'ils se retrouvent toujours pour le repas du samedi matin. Toujours, ou le dimanche à midi pour le brunch ou quelque chose. Puis il y a toujours des faits cocasses qui se passent autour de la table. Et être reçu, le repas devient comme un prétexte pour connecter. Et puis, dans nos vies, on a besoin de créer des rituels où ce qu'on va se retrouver ensemble à quelques fois durant l'année ou à des fréquences où ce qu'on va se retrouver avec des gens qui nous aiment, des gens qui nous attendaient pour pouvoir connecter. Et donc, dans notre famille, mais on fait aussi des rituels. Puis ma femme est bonne pour ça, pour créer des traditions. Par exemple, depuis quelques années, on fait le sapin de Noël. Hein? Et puis, Steph, elle envoie un messenger, elle envoie une note sur Facebook aux enfants. Et vendredi passé, c'est ce qu'on a fait, comme à l'habitude, là, Le premier vendredi ou samedi du mois de décembre, c'est toujours le sapin. Il ne faut pas manquer à ça. Et puis, les enfants embarquent dans ça. Puis, d'année en année, ça fait comme on fait notre sapin, tu sais. Puis, moi, je ne pouvais pas être là. Puis, Steph a dit, ça te dérange-tu de ne pas être là? Elle veut être inclusive dans ça parce que je devais travailler à Québec. Et non, pas de problème, allez-y, faites-le, tu sais. Puis, finalement, ils ont eu un problème avec les perles. Même si tu les roules toutes comme en ordre, quand tu les déroules, ils se mêlent toutes. Fait qu'ils ont passé une partie de la soirée à essayer de se démêler dans le collier de perles. Puis, finalement, quand je suis arrivé de Québec, le sapin n'était pas encore terminé parce qu'il y avait eu de la misère avec ce fameux collier de perles-là. Et je suis rentré dans la maison, ça sentait les biscuits et j'ai mangé des biscuits. 4. Pour ceux qui ne savent pas, je suis sur une diète, pas de sucre, tu sais, mais là, j'ai fait une exception. C'est Noël, après tout. Alors, j'ai pris 4 biscuits en ligne avec du lait d'amande, puis là, j'ai calé ça, c'est vraiment super. Et j'ai respecté ma tradition, comme à chaque année, j'étais allé m'effoirer sur mon lazy boy pendant qu'eux autres faisaient le sapin, puis... Et puis, je me suis réveillé au milieu de la nuit. Je me rappelais pas, mais je me suis réveillé, puis j'étais dans mon lit. Puis le matin, quand je me suis levé, j'étais dans mon lit. Mais ça, je pense que c'est fidèle à chaque année, n'est-ce pas, Kayla? Chaque année. Je dors sur le divan, hein? Donc, c'est ça. Mon fils nous a fait essayer son nouveau gadget, l'assistant Google, ou ce qu'il peut dire à son assistant de fermer la TV, ouvrir la TV. Il y avait des quiz, puis là, les autres avaient bien du plaisir avec ça. Et ma fille nous a aussi... je voulais dire aussi, ma femme, comme vous pouvez voir sur ses photos de profil là, de Facebook, qu'est-ce qu'on voit? C'est jamais une photo d'elle toute seule. C'est toujours une photo plus récente de notre famille. Vous avez celle-là lors du mariage à Kayla et Benjamin. Un petit peu moins. Là, c'est moi qui tenais le Kodak, là, fait que c'est normal que je ne suis pas dans la photo. Puis encore, il y a quelques années, quand je mangeais du sucre. Et donc, on a vu aussi Kayla qui nous a fait connaître ses talents. Encore, quand elle était jeune, elle écrivait sur les murs avec des crayons indélébiles, mais là, elle écrit avec de la craie, fait qu'on va pouvoir la laver. T'sais. Mais regardez ici, c'est « Bienvenue chez vous. Faites comme chez vous. » Donc, c'est un bon moment. Et lorsqu'on crée des rituels ou des occasions de se voir, ça devient des choses. Et là, c'est les enfants qui le demandent. Hey, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un souper en famille. On appelait ça la soirée de famille, qu'on prenait souvent le lundi ou le mardi soir. Tu sais. Et donc, aujourd'hui, je veux parler de la venue de notre Seigneur Jésus. Et sa venue, lorsqu'il est venu, ne devait pas se faire sans cérémonie et comme un cheveu sur la soupe. Il était annoncé par plus de 312 prophéties. Il y en a au moins 100 qui se sont accomplies dans les années de sa naissance jusqu'à sa crucifixion, puis son élévation dans les cieux lorsqu'il est ressuscité. Il n'y a aucun fondateur de religion qui était annoncé d'avance, puis que ça s'est passé. Alors, le personnage de Jésus-Christ nous suscite notre intérêt. Et la veille, le 31 décembre, on va faire un party ici. À 7 heures le soir, ça va être l'église. Fait que le matin, venez pas le dimanche matin. On va faire ça le soir, c'est un dimanche. À 7 heures, on va avoir un message sur les prophéties qui annonçaient sa venue et qui fait que Jésus-Christ déclasse toute compétition concernant sa personne. Et il devait venir pas sans cérémonie et non sans invitation. Il s'est fait annoncer par des prophètes, puis aujourd'hui, on va voir que sa venue même se faisait annoncer par son petit cousin, Jean-Baptiste. Et donc, il s'annonçait d'avance. Il devait être attendu et il s'attend d'être attendu par un peuple qui lui prépare un repas, Hey, on t'attendait, ça faisait un bout qu'on t'attendait, merci d'être venu. Ça faisait 400 ans qu'il n'y avait pas eu de prophète en Israël et ce que Dieu voulait créer par ça, c'est comme un silence pour dire, voulez-vous que je vienne? Est-ce que vous voulez que je vienne dans votre monde? Et là, Jésus vient. Parmi son peuple, il devait être attendu par son peuple et Dieu devait lui envoyer un précurseur, c'est-à-dire quelqu'un qui passait avant lui pour un peu sonner de la trompette puis dire le roi s'en vient dans quelques temps et il devait annoncer sa venue. Alors, le titre de mon message aujourd'hui, dans Jean 1:11, je me sers de ce verset-là qui dit « Il est venu chez les siens ». Il devait naître du peuple juif par la lignée d'Abraham, par la lignée de David. Il devait naître chez les Juifs, donc c'est pour ça qu'il l'appelle chez les siens, c'est que c'est un Juif. Dieu s'est fait homme parmi le peuple juif. Et donc, le titre de mon message, première partie de deux, la semaine prochaine, je vais parler un petit peu plus de la naissance de Jésus, puis qu'est-ce qui s'est passé les 8 jours autour de ça. Mais aujourd'hui, je vais vous parler un peu de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui devait être celui qui annonçait la venue du Sauveur. Et donc, si vous êtes dans Luc, chapitre 1, on va lire aujourd'hui que Dieu vient chez les siens par la personne de Jésus. Dans le passage d'aujourd'hui, il va venir annoncer, l'annonciation va se faire par le biais des anges. On va lire ça, chapitre 1, verset 5. Durant le règne d'Hérode sur la Judée, il y avait un prêtre du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Zacharie et Élisabeth. Il y a plusieurs noms dans la Bible qui veulent dire quelque chose. Et le choix de Dieu de s'arrêter là, ou le choix de Dieu d'avoir inspiré les parents d'Élisabeth puis les parents de Zacharie, était très significatif. Parce que le nom Zacharie veut dire « l'Éternel se souvient ». C'est un des noms pour Dieu qui est l'Éternel. Donc, l'Éternel se souvient pour Zacharie et pour le nom d'Élisabeth, le serment de Dieu. Et lorsque vous mettez ça ensemble, c'est l'Éternel se souvient du serment de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Dieu a choisi Zacharie et Élisabeth, parce qu'il voulait nous dire, et voulait surtout dire à Zacharie et Élisabeth, qu'il n'avait pas oublié son peuple. Et ce qu'on va voir par l'ange, c'est incroyable. Donc, on voit que d'abord, Zacharie, il était dans une des 24 classes de prêtres. Donc, si on regarde un petit peu en Israël, il y avait le temple d'Hérode. Et bien avant le temple d'Hérode, il y avait un autre temple. Et David avait divisé les prêtres en 24 sections. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à toutes les 24 périodes, tu servais, si tu étais dans la famille d'Aaron, 2 semaines. Donc, tu quittais ta famille, tes enfants, tout ça, tu allais servir au temple, le temple du temps de Jésus, c'était le temple d'Hérode. Et tu allais là pendant 2 semaines, et là, il y avait le grand prêtre, il y avait le chef des prêtres, puis il y avait les prêtres qui avaient des ouvrages communs. Pour Zacharie, il y avait un sort qui avait été tiré, et tout dépendant, le sort d'où ce qui tombait, ça dépendait de tes tâches que tu étais pour faire durant ces 2 semaines-là. Et Zacharie, lui, le sort tombe sur le fait qu'il va devoir s'occuper de l'encens. On lit ça au verset 8. Or, pendant que Zacharie remplissait sa fonction de prêtre devant Dieu, c'était le tour de sa classe. Il fut désigné par le sort, d'après une règle en vigueur pour les prêtres, pour entrer dans le temple du Seigneur et y brûler du parfum. Alors, 2 semaines, matin et soir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va apporter de l'encens qui va venir de la partie ici d'un sacrifice d'un animal innocent. On va prendre le charbon et on va l'apporter à l'intérieur. Prochaine étape. On va l'apporter devant le rideau du lieu très saint. On va rentrer dans cette partie-là ici. Et il y a un rideau que vous voyez, peut-être blanc, je ne sais pas si vous voyez le rideau. Il y a ici un autel devant ce rideau-là. Et ça, c'est le lieu très saint et ça, c'est le lieu saint. Et Dieu... On voit, tu sais, on a vu un acétate que Dieu est en colère, puis Christ est venu calmer la colère de Dieu. C'est comme si Dieu était en colère. Le Père voulait nous punir. Puis le Fils dit, non, je vais te calmer. Là, mets-toi pas en colère contre le peuple. Mais en fait, il y a 2 aspects très importants tout au long des Écritures. C'est que Dieu est en colère contre le péché et il aime l'homme. Il est en colère contre le péché parce que le péché sépare les hommes, détruit la race humaine, et détruit aussi la relation entre lui et l'homme. Et à cause de ça, Dieu a une horreur du péché, mais il aime l'homme infiniment. Et ces 2 parties-là de Dieu se réconcilient. Aujourd'hui, on va voir que ça se réconcilie, cette affaire-là. Mais un jour, pour montrer comment Dieu était saint, un jour, il a demandé à ce que quand le feu qui rentre dans l'autel, quand il y a un feu qui va venir brûler l'encens, il faut que ce soit un feu qui vienne de l'intérieur et non pas n'importe quel feu que tu as allumé ton charcoal, puis là que tu viens puis tu allumes ça. Puis il y a des gars qui ont dit, ben non, on n'en est pas obligé de prendre le feu qui vient d'un sacrifice. On peut tout simplement prendre du feu de chez nous puis venir allumer ça. Puis les gars sont morts. Là, à l'autel de l'encens. Et donc, au temps de Jésus, il y avait cette idée que si jamais tu amenais, tu faisais le sacrifice pas de la bonne manière, tu mourrais. Puis le signe que tu mourrais, c'est qu'il y aurait un ange qui t'apparaîtrait à droite de l'autel des parfums. OK? Fait qu'il y avait cette idée-là chez les Juifs de ça. Et donc, lui, il rentre, puis il va offrir le charbon, il va l'apporter dans un lieu saint, et là, qu'est-ce qui va se passer? On voit le verset 10. Toute la multitude du peuple était dehors en prière. À l'heure de l'offrande du parfum, donc là, les gens voient qu'ils rentrent. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Et Zacharie fut troublé en le voyant et la peur s'empara de lui. Pourquoi il avait peur? Mais parce que là, le signe que tu vas mourir, il était là, là, l'ange t'apparaissait là. Mais en fait, Zacharie n'est pas mort cette journée-là. Et l'ange lui a annoncé qu'il aurait un fils et que son fils s'appellerait Jean. Mais là, lui est avancé en ange, sa femme est stérile. Et là, il va avoir un fils et son nom va être Dieu est gracieux. Donc, ceux qui s'appellent Jean, vous avez Dieu est gracieux avec vous. Fait que cet enfant-là, l'ange lui dit, cet enfant-là va être consacré dès le ventre de sa mère. Il va être rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Puis, qu'est-ce qu'il va faire, cet enfant-là? Il va marcher devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie en tant que prophète, hein, pour parler du fait qu'il serait un prophète. Qu'est-ce qu'un prophète, ça fait? Ça annonce des choses d'avance. Et donc, pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Le but de Jean-Baptiste, venir puis dire, mettez la table. Mettez la table, sortez vos plus beaux ustensiles. Le roi s'en vient et il veut vous rencontrer. Il veut avoir une relation avec vous. Recevez-le. Et donc, Zacharie n'est pas mort cette journée-là. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Il ne faut pas seulement que le Seigneur vienne, il faut qu'il soit attendu. C'est pas tout que le Seigneur vienne. Il fallait qu'il soit attendu. Donc, ce n'est pas juste Marie qui va avoir un fils né de Dieu, mais il va avoir un cousin, un petit cousin, le fils de la cousine de Marie, finalement, qui va venir et qui va l'annoncer d'avance. Il veut être attendu dans la foi. Zacharie est devenu muet. Là. Excusez. Il est devenu muet, un gros tape sur la bouche. Pas capable de parler, ça va durer pendant 9 mois de temps, tu t'imagines, toi, pas être capable de parler. Et là, les gens vont dire, quand il est sorti, il dit, il s'est passé quelque chose en dedans. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu une vision, c'est sûr. Pas capable de parler. Pourquoi? Parce que s'il aurait parlé, il aurait probablement essayé d'expliquer qu'il ne croyait pas. En fait, l'ange, il dit, tu ne crois pas. Fait que parce que tu n'as pas cru, hein? Oups, ça, c'est la face qu'on t'a supposé de voir apparaître. Hein? C'est le président Netanyahou, là, mais ce que je veux dire, c'est un juif qui doute. Tu sais, on va dire mon œil. Parce qu'il dit à l'ange, du voyons donc, je suis vieux, ma femme est vieille, c'est impossible qu'on ait un enfant. Fait qu'il a comme répondu dans l'incrédulité. Puis l'ange, il dit, ben puisque tu n'as pas cru, tu vas être rendu muet. Fait qu'il va être muet jusque-là. Ça ne sera pas long. Je reviens ici parce que j'essaie d'avancer les acétates sur mon carnet de notes au lieu de sur la manette ici. Alors l'ange, il dit, tu n'as pas cru? Tu ne vas pas pouvoir parler. Et en fait, quelqu'un qui ne croit pas n'a pas grand-chose à dire non plus à propos de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui croit, par exemple, a plein de choses à dire sur lui. Comme moi aujourd'hui, il va falloir que vous m'arrêtez. Non, c'est une blague. Ce n'est pas tout que le Seigneur vienne, mais le Seigneur veut être attendu. Et il veut être attendu comment? Il veut être attendu par la foi. Le même ange, parce qu'on sait que c'est l'ange Gabriel, parce qu'il lui dit, je suis l'ange Gabriel qui a été envoyé vers toi, tu vas être muet, etc. 6 mois passent. Dans les montagnes de Galilée, chez une femme qui s'appelle Élisabeth, l'ange Gabriel va venir, puis il va donner un message à Marie cette fois-ci. Et il va lui dire à Marie qu'elle va avoir un enfant, même si elle est vierge, et que cet homme, il y a quelque chose qui va être, il va être un homme. Son nom va être Yeshua ou Jésus, ça veut dire, et le mot Jésus veut dire Dieu sauve. J'aurais pu le mettre comme Jean et tous les autres noms qu'on a vus, mais Yeshua, c'est Dieu sauve. L'ange lui dit, il sera grand et il va venir accomplir les promesses faites à David. Et il y avait des promesses qui avaient été faites à David qu'il aurait une maison éternelle, que le trône de David serait éternel, non pas lui, mais un de ses descendants, qu'il aurait un royaume éternel et un descendant éternel. Et l'ange lui dit toutes ces choses-là. Et Marie lui pose la question, mais tu sais, comment cela peut-il se faire? Mais ce qui est intéressant, dans ce passage-là, on ne voit pas, ben voyons, qu'est-ce que tu penses? Je suis vierge. Ben voyons, c'est impossible. Non. Ce que Zacharie a fait, elle ne l'a pas fait. Elle dit, comment ça va fonctionner? Parce que, tu sais, bébé, ça prend un homme et une femme. Là. Peux-tu m'expliquer? Je ne comprends pas. Et l'ange va lui dire que le Saint-Esprit va la couvrir et elle va enfanter le Messie. C'est important qu'il y ait une intervention divine puisque la personne du Seigneur Jésus, contrairement à toutes nous autres, elle n'a pas péché. Jésus était sans péché. Il fallait absolument que Jésus soit sans péché parce que sa mort à la croix devait servir de substitut à notre place, c'est-à-dire que lui allait devoir mourir comme un coupable, mais il fallait que le coupable, celui qui donnait sa vie pour un autre, il fallait qu'il soit sans péché. Alors la naissance virginale de Christ, là, c'est pas juste comme quelque chose qu'on aime à croire en tant que croyant, c'est quelque chose que si ça n'existe pas, le sacrifice qui a été fait à votre place ne compte pas non plus. Donc, il était très important, ça. Et donc, c'était une naissance dans une vierge par le Saint-Esprit qui allait venir la couvrir. Et alors, elle dit, bien, OK, d'abord, bien, que ça me soit fait comme que ça m'a été dit. Sa question ne cachait pas le doute, mais elle voulait avoir plus d'explications sur comment il ferait ça. Et on voit déjà dans sa discussion avec l'ange qu'elle a un désir de participer à l'accueil de ce Dieu-là. Elle allait devenir l'hôte de Jésus-Christ. C'est quelque chose quand même. Et on l'a dit bienheureuse à cause de ça. Ça paraît dangereux. Marie, elle va se faire répudier par son futur mari parce qu'il va dire « Où c'est que tu es encore allé traîner? » Non, mais c'est sûr, là, il va se passer quelque chose, à moins que Dieu intervienne, mais qu'est-ce qu'elle dit qu'il me soit fait comme tu me l'as dit? Deuxièmement, qu'est-ce qui se passait? Dans son village, elle allait être lapidée ou encore ostracisée ou mise à l'écart de son peuple. Alors, quand tu regardes ça, tu te dis, OK, c'est pour ça qu'il y a eu un recensement. Ils ont sorti de leur ville, sont allés en Bethléem, sont arrivés un petit peu comme incognito. Dieu contrôlait toute l'histoire pour que ça ne se passe pas. Puis la troisième chose, elle allait ne pas pouvoir avoir d'enterrement avec les autres. Donc, elle n'aurait pas de tombeau qui pourrait lui être un enterrement digne de ce nom-là. Donc, il y avait comme une honte. S'il n'y avait pas la lépidation, il y avait quand même une mise à l'écart. Mais elle va accepter l'annonce que le Seigneur vienne naître en elle. Et là, l'ange va lui dire, en passant, ta cousine est déjà rendue à 6 mois de grossesse. Fait que Marie, poigne ses clics, ses claques, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'en va voir sa cousine, puis elle va l'aider pour les 3 derniers mois de sa grossesse. Du 6e au 9e mois, elle va aller l'accompagner pour passer du temps ensemble. Et là, dès qu'elle va arriver, l'enfant, dès qu'Élisabeth va entendre la salutation de Marie, l'enfant va tressaillir de joie dans le cœur. Déjà, Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère, comme l'ange avait dit à son père. Donnez-moi les noms. Hein. OK, Zacharie. Merci. Donc, Jean-Baptiste, il est dans le ventre de sa mère, il est rempli de joie de recevoir son Seigneur. Le fils qui est dans Élisabeth se réjouit de recevoir celui qui est dans Marie. Puis les deux femmes sont là comme « wow ». Puis là, Élisabeth, elle dit, ta voix s'est fait entendre. Elle dit, l'enfant a tressailli de joie dans mon cœur. Et là, Élisabeth, elle va faire un commentaire qui est vraiment intéressant. Regardez ce qu'elle va dire. L'enfant tressaillit. Comment m'est-il accordé? N'oubliez pas, c'est sa cousine. Comment m'est-il, c'est un privilège, comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur? Elle dit à sa cousine, comment ça fait que j'ai le privilège que la mère de mon Seigneur vienne vers moi? Ce n'est pas sa cousine, c'est la mère du Seigneur Jésus-Christ. C'est la mère du Dieu fait homme. Emmanuel, on l'a chanté tantôt, ça veut dire Dieu avec nous. C'est le nom de Dieu. On l'appellera Emmanuel, les prophètes disaient, on l'appellera Dieu avec nous. Et Élisabeth a dit, quel privilège que j'ai, pourquoi moi j'ai cette faveur-là que la mère de mon Seigneur vienne vers moi. En effet, dès que j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli de joie en moi, et là elle va dire ceci, heureuse celle qui a cru parce que ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Heureuse celle qui a cru. Il y a un bonheur de croire en Dieu. Et j'espère que vous avez tous ce bonheur-là de croire en lui, de croire que Jésus-Christ est Dieu. J'espère qu'on a tous ce bonheur-là. Jésus a dit à Thomas, juste un petit peu avant, des fois, hier, j'étais dans un concert, je regardais, on faisait la ligne pour rentrer à l'église. On filait dehors. Puis il y en a qui étaient là depuis 5 heures sûrement parce qu'ils ont eu des belles places. Puis nous autres, on était rentrés comme 45 minutes avant, puis on avait une colonne en face. Puis on se penchait comme ça pour voir Juliane chanter. Puis c'est que wow! Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de ligne d'attente comme ça pour aller à l'église? Mais pour un concert que tu donnes 25$, hey, 25 fois 900$. C'est une bonne business, ça. 25 piastres, tu vas te geler dehors, t'attends, pour avoir une place pour aller écouter des chansons de Noël. Moi, je vous dis, la joie de connaître le Seigneur surpasse cette joie-là. C'est une joie que le monde ne connaît pas. Mais le croyant, il va faire la ligne pour rencontrer le Seigneur. Puis dire, sais-tu quoi? Tu vas trouver un monsieur, une madame qui est prête à te recevoir, Seigneur. Heureuse, celle qui a cru. L'enfant qui était en son sein a tressailli de joie à l'entendre de la voix du Seigneur Jésus. Et celui et celle qui entend la voix du Seigneur Jésus aujourd'hui tressaillit de joie aussi. Et je pense que c'est une joie que le monde ne connaît pas. Puis dans la ligne, il y a un gars qui a dit, il me semble que je suis venu moi à l'église ici le dimanche. Puis il dit, c'était pas le même nombre de personnes. Puis là, on a tout ri, tu sais, puis je riais aussi, mais en même temps, des fois, je regardais tout ce beau monde-là, nos beaux et belles frères et consœurs québécoises, puis je me dis, est-ce qu'ils connaissent la joie de croire au Seigneur Jésus? Jésus a dit à Thomas, heureux ceux qui ne m'ont pas vu, qui n'ont pas vu et qui ont cru, il parlait des 11 autres disciples. Les 11 autres disciples, eux autres, s'étaient présentés, ils étaient venus, ils se rassemblaient autour d'un repas. Ils se rassemblaient, le rituel d'être ensemble, finalement. Puis Jésus leur était apparu la semaine d'avant, ressuscité, mais Thomas n'était pas là. Puis la semaine d'après, quand ils sont venus, Thomas il dit, gars, je ne te crois pas, je ne crois pas. À moins que je touche ton côté puis que je touche à tes mains, je ne croirai pas. Puis Jésus dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Donc, il a cru pareil. Puis Zacharie a fini par croire aussi quand il a vu son fils Jean naître. Mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Il y a un bonheur de croire sans l'avoir vu encore. Puis on va revenir à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, justement, quand son fils est né, 8 jours après, il y a la circoncision. Puis là, il y avait une tradition qui disait que tu nommais, pour garder le nom de la famille, tu gardais toujours le prénom, soit d'un oncle qui venait de mourir ou d'un grand-père ou quelqu'un qui venait de s'éteindre dans la famille, tu leur donnais le nom. Ou tu donnais le nom du père. Puis on l'appelait, on mettait un bar devant qui faisait fils de Zacharie, bar Zacharie, mettons. On lui dit, on va l'appeler Zacharie. Fait que là, sa femme a dit non, on va l'appeler Jean. Puis là, ben, il se tourne vers Jean, puis Jean ne peut pas parler. Fait que Jean, il prend un papyrus, je ne sais pas quoi. Il écrit, non, son nom va être Jean. Et au même moment où il va écrire son nom va être Jean, sa bouche va se délier. Et là, il va commencer, et le texte dit, au même instant, au verset 64, si vous êtes dans le cœur, Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait et bénissait Dieu. Là, il pouvait parler parce que là, il pouvait bénir Dieu. Il ne parlerait pas dans l'incrédulité, il n'essayerait pas de faire de toutes sortes de théories de pourquoi que sa femme a eu un enfant. Il bénissait le Seigneur, puis dans ce qu'il va dire, il va faire un cantique qu'on appelle le cantique de Zacharie, puis il va rappeler les promesses qui ont été faites à David, les promesses qui ont été faites à Abraham. Et au verset 72, il dit, « Il se souvient de son alliance selon le serment qu'il avait juré à notre Père. » Vous avez voulu le jeu de mots? Il se souvient du serment. Il se Zacharie Élisabeth. Il dit littéralement ça dans la langue de son peuple. Là. Il se souvient de son serment. Et il va annoncer aussi la nouvelle alliance, quelque chose qui était peu connu encore au verset 76. Il dit « Toi, petit enfant ». Et là, il regarde, là, c'est un peu comme l'équivalent d'une cérémonie de baptême chez les Québécois, mettons. Là. Tu sais, on vient autour de l'enfant. Mais c'est pas ça, c'était la circoncision. Et je dis pas que c'est l'équivalent, je dis juste que c'est une réunion de famille autour d'un enfant. C'est tout ce qui est pareil. Le reste, c'est tout différent, OK? Juste pour pas qu'on pense que le baptême, c'est pas pour les enfants, c'est pour les adultes dans la Bible. Jésus a été baptisé à l'âge adulte aussi, mais bon, c'est pas notre point. Il annonce la nouvelle alliance et dit « Et toi, petit enfant? » Là, il prend l'enfant, puis il le regarde, puis il dit « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés, grâce aux entrailles de miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort et pour les diriger leurs pas dans le chemin de la paix. » Qu'est-ce qu'on voit? D'abord, Dieu se souvient de ses serments. Il se souvient des promesses qu'il a faites que, en Abraham et tous ses descendants, toutes les nations de la terre seraient bénies en lui parce que là, voici qu'il y a Jean-Baptiste, puis Jean-Baptiste va parler d'un autre. Il va parler de son petit cousin Jésus qui naît de la lignée de David, de la lignée d'Abraham, Isaac et Jacob. Et ils vont recevoir le pardon de leurs péchés au travers de cet enfant-là. Ça, c'est la nouvelle alliance. Et quand on lit les évangiles, maintenant, laissez-moi tout recoudre ça avec le repas de famille, comme on a commencé le message. Mais quand on lit les évangiles, on ne tourne pas déjà 3 pages dans Matthieu qu'on s'aperçoit que ceux qui viennent écouter Jean-Baptiste, ils essaient de trouver des fautes en lui pour essayer de l'éliminer. Tu sais. Puis plus qu'on voit les Écritures, plus qu'on s'aperçoit que même si Dieu voulait annoncer d'avance, même s'il voulait préparer son peuple ne l'a pas reçu. Ils l'ont pas reçu. Ils ont reçu l'annonce, mais ils n'ont pas rien préparé. Mais il y en a qui se sont préparés, par contre. Et ils sont devenus participants de sa famille proche. Tu sais, le verset du début, « Elle est venue chez les siens. » Ici, ça veut dire que c'est Jésus qui était personnifié par la Bible, la parole plutôt. Il est venu nous parler de la part de Dieu, si on peut dire. Donc, la parole, ou Jésus-Christ, est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'on voit? On voit dans ce passage-là que même s'il y a eu une annonce, même s'il y a eu des prophètes pendant des centaines d'années qui l'ont annoncé qu'il était pour venir, même si son cousin Jean-Baptiste est venu prêcher pour préparer le chemin du Seigneur, il prêchait préparer le chemin du Seigneur, ils ne l'ont point reçu, mais il y en a qui l'ont reçu par contre. Et ceux qui l'ont reçu ont le privilège de faire partie de la famille proche de Dieu. Bien, vous dites, est-ce que tous ne le sont pas? On l'est tous parce qu'on est créé par lui, puis Dieu le Père de tous les hommes, mais il faut naître de nouveau, c'est ce que la Bible nous dit. Puis naître de nouveau, ça veut dire être, recevoir, si on peut dire. Je veux prendre des mots simples. Faire partie de la famille proche de Dieu, c'est que Dieu se crée une famille de tous ceux que Dieu a créés. Dieu dit, oh, je vous ai créé un jardin, vous avez mis tout parfait, vous n'avez pas voulu de moi, oh, il faut que je respecte ça. Donc, ce qu'on va faire, on va partir quelque chose à côté. Je vais me créer une famille. Puis, si vous voulez en faire partie, vous pouvez, sinon, vous pouvez passer l'éternité sans moi. C'est un peu ça le deal. Fait que le deal, c'est l'homme, il choisit. Dieu, il dit, qu'est-ce que tu veux? L'homme, il dit, excuse-moi, Dieu, mais moi, je voudrais pas de toi, mettons. C'est possible? Oui, c'est possible. Comment on fait ça? Fais tes propres choix. Mange de ce que tu n'as pas le droit. Puis tu, comme ça, tu vas pouvoir faire ton choix. L'homme, ayant fait son choix d'être indépendant avec Dieu, Dieu dit, OK, on fait quoi? On crée une nouvelle famille. Et ceux qui veulent en faire partie peuvent encore, avec leur choix, faire partie de cette famille-là qui va durer pour l'éternité. Et donc, ils vont devenir, c'est pas tous qui sont enfants de Dieu, de la nouvelle famille, si on peut dire. Et donc, ceux qui croient qui Jésus est, son nom, qui il est et ce qu'il a fait, Jésus, personnifié par la parole, donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et là, ceux qui ont dit, c'est-tu quoi, il s'en vient, puis moi, je veux le recevoir, ce roi-là. C'est ça, Noël. Noël, c'est ceux qui l'ont reçu, tu sais, il n'y avait pas de place pour lui dans l'hôtellerie. On va en voir ça un peu plus la semaine prochaine. Mais il était dans une crèche, une place où ce qu'on nourrissait les animaux. Il n'y avait pas de place pour le roi des rois. Puis il y a un gars qui s'appelait Hérode, on l'appelait le roi des Juifs. Puis là, les gars sont arrivés et on dit, il est où le roi des Juifs qui vient de naître? Et lui, ça l'a mis hors de lui, fait qu'il a voulu faire tuer tous les bébés. Tu sais. Fait qu'il n'était pas reçu. Mais là où il est reçu, eh bien, il devient le maître à cette place-là, si on peut dire. Je vais demander à Étienne et son épouse de s'approcher pour continuer avec les chants. Et laissez-moi juste vous dire mes pensées de conclusion ici. Le peuple préparé aujourd'hui, dans cette période-ci de l'histoire, ce n'est pas le peuple juif, malheureusement. C'est l'Église. Dieu dit, les Juifs, ils m'ont crucifié. Ils ont crucifié mon fils. Alors, je vais me tourner vers ceux qui veulent bien de Jésus. Et c'est qui veut de Jésus? Ce n'est pas le peuple juif. Le peuple juif croit encore qu'il y a un Messie qui doit venir. Ils l'attendent encore. Ils attendent encore un Élie qui va venir annoncer un Messie. Mais l'Église, elle a accepté que Jésus-Christ, il était le Messie qui devait venir. Puis, présentement, on est un peuple qui se sont préparés. On est devenu un membre de sa famille proche. Le passage dit ceci, dans Éphésiens 2, 17. « Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. » Ici, ça parle d'une construction. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est plus dans le temple à Jérusalem où ce que Zacharie offrait du parfum qu'on rencontre Dieu. On rencontre Dieu où? Dans la famille de Dieu. Et où est-ce qu'elle est, la famille de Dieu? Bien, il dit, vous êtes un temple saint. Vous êtes un temple saint. Voyons. Ah, ici. Vous êtes un temple saint dans le Seigneur. Donc, chaque personne qui a accepté que Jésus-Christ est venu sur la terre puis est né pour pouvoir venir nous sauver, qui l'ont accepté, tu dis, hey, tu m'as reçu. Je vais faire mon invitation dans ton cœur. Je vais sauter ça. On voit une belle table de banquet encore. J'ai commencé avec ça. Le repas est une occasion pour connecter ensemble. L'Église, ceux qui acceptent le Seigneur font partie de l'Église. Connecte les uns avec les autres, puis connecte aussi avec Dieu. Et donc, la bonne nouvelle, ce n'est pas de venir à l'Église, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Et par le fait même, en acceptant qui Jésus est et ce qu'il a fait, eh bien, ça nous donne la possibilité de le recevoir. Puis Dieu dit, écoute, je vais faire un deal avec toi. Si tu me reçois, moi aussi, quand je vais aller dans la maison de mon Père, je vais te recevoir. Il y a une parabole. Je vous la laisse comme ça. Jésus dit qu'il y a un homme qui prépare un grand noce puis invite du monde, puis les gens disent « Ah non, excuse-moi, je suis trop occupé à travailler dans ma terre, je suis trop occupé dans mes loisirs, je suis trop occupé. » En 2017 ou en 2018, qu'est-ce que Dieu dirait? Qu'est-ce que l'homme dirait? Il dirait « Je suis trop occupé à préparer ma retraite. Je suis trop occupé avec toutes les choses que je veux goûter dans la vie. Tu » sais. Puis il dit « Il n'y a personne. Le maître, on est allé inviter tout le monde, puis il n'y a pas personne qui vienne. » Ben, il dit, tournez-vous, va aller dans les rues, là, aller sur le long des ruelles, aller dans les places où il y a des pauvres, aller dans les endroits où les gens sont poqués. Là, puis dites-leur qu'ils viennent, puis c'est gratuit, puis qu'ils ne payent pas. Puis là, ils sont allés en faire ça, puis il dit, il y en a encore de la place. Il continue, il dit, moi, je vais avoir une maison pleine. Puis le royaume de Dieu, c'est un petit peu comme ça. Le roi, il est venu, Puis il nous place tous devant cet enfant Dieu-là. Puis il nous place aussi devant la croix qu'on a derrière Étienne. Qu'est-ce qu'on a? On a une croix. Et qu'est-ce qui arrive à cette croix-là? Un enfant né sans péché a grandi et a vécu une vie sans péché. Il est mort sur la croix et il a payé la dette des pécheurs. Puis il nous offre que si on l'accepte, qu'est-ce qu'il est et qu'est-ce qu'il a fait? On reçoit le don de la vie éternelle. Puis le deal qu'il nous fait, c'est si tu me reçois, moi aussi je vais te recevoir. Dans Apocalypse 3:20, il nous dit ceci. Je me tiens à la porte et je frappe. Si tu rouvres la porte, je vais manger avec toi et tu vas manger avec moi. Le repas est encore une fois juste un prétexte pour passer du temps ensemble. Mais l'idée, c'est est-ce qu'on veut de lui? Et si on veut de lui, bien, lui va vouloir de nous autres aussi. Il va nous accepter lorsqu'on va mourir. Et donc, c'est toute une belle réflexion dans le temps de Noël de connaître cette joie-là d'être invité. D'être invité à un festin, d'être invité à la table du Seigneur et de dire, sais-tu quoi? J'étais attendu. Je reviens à la maison, Seigneur. Je veux te connaître. Puis ici, là, je t'ouvre mon cœur puis je te reçois. Tu es venu sur la terre, on ne fera pas comme si tu n'étais pas venu. Puis tu es ressuscité puis on ne fera pas comme si tu ne reviendras pas. Comme au temps de Jésus disait, comme à la fin des temps. Comme la fin des temps va être exactement comme au jour de Noé. Puis on voit partout sur la terre des marques d'un déluge universel. On trouve des carcasses de baleines sur le top des montagnes. On voit vraiment qu'il y a eu un bouleversement à la grandeur de la planète. Puis Jésus dit, comme au jour de Noé, la même affaire va se passer à la fin des temps. Il dit, les gens vont se marier, vont avoir des enfants, ils vont vivre leur vie, puis ils ne se soupçonneront pas jusqu'à ce que le jour vienne et les surprenne tous. Dieu a jugé un temps où il va venir juger le monde par celui qu'il a désigné. Acte 17, c'est Jésus-Christ. Jésus est venu premièrement comme un sauveur, mais il va revenir comme un juge. Et ceux qui vont l'avoir accepté, Dieu dit, hey, rentre. Ceux qui vont avoir refusé qu'il soit le roi de leur vie, il va dire, pas de trouble. Il y a une place pour ceux qui ne veulent pas de Dieu, puis il y a une place pour ceux qui veulent de Dieu. Puis la joie de le connaître, c'est de savoir que nos péchés sont pardonnés. C'est de savoir que je n'irai jamais en jugement. Parce que Jésus est né et est mort pour payer la dette de mes péchés puis de me préparer une place au ciel. La question aujourd'hui, c'est est-ce que ce Dieu-là, qui est trop grand pour que le monde puisse le contenir, mais assez petit pour entrer dans le cœur d'un homme, va trouver de la place dans chacun de votre cœur? L'invitation est lancée. Il a annoncé. Si vous dites, je ne savais pas qu'il l'avait annoncé, vous avez accès à l'informatique, à des Bibles, à n'importe quelle littérature biblique qui nous parle des prophéties qui se sont accomplies en la personne de notre Seigneur. Donc, peut-être que si on ne sait pas, c'est parce qu'on ne veut pas le savoir. Mais lui, il est venu. Il est venu, puis on l'a poursu, on l'a crucifié, on lui a donné un trône d'épines, une couronne d'épines, puis un trône, c'était une croix. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir ses enfants. Direz-vous au Seigneur, vous n'aviez pas eu le temps de considérer son offre? Pense pas. Dieu dit, reçois-moi, moi aussi je vais te recevoir. Puis qu'est-ce qui va arriver? On va être en communion avec les autres enfants de Dieu. La table va devenir un prétexte pour apprendre à connaître Dieu. L'Église va devenir un endroit où on apprend à connaître celui qui nous a rachetés. Puis l'Église va devenir aussi un endroit où on va pouvoir aller dans le monde puis faire connaître, annoncer, être des gens baptistes pour le monde. Hey, laisse-moi te dire que l'homme meurt une fois, mais c'est pour longtemps, comme disait Molière. Prépare ton éternité. Le roi nous a visités. Puis le roi va revenir, puis il voudrait t'asseoir à sa table. Il voudrait que tu aies une place dans son royaume. Tu veux-tu l'accepter? Avec l'Église va devenir cet endroit-là, cette table-là, où ce que, autour de la table, on a tous des gens qui sont imparfaits, mais il y a quelque chose, par exemple, qu'on a compris. c'est qu'à force de faire des petits rituels, des petites, quand je dis des rituels, c'est pas comme des rituels dans une secte, là. C'est des habitudes, comme le sapin à chaque année, comme aller à l'église de temps en temps pour écouter la parole ou fréquemment pour écouter la parole, puis connaître ce Dieu-là. Alors, on a une bonne quinzaine de minutes là, devant nous là, pour chanter des chants et conduisez-nous. Ça marche? Merci.
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio, vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.graceetverite.org.